Courbons-nous, remettons ce temps dans sa parole, entre ses mains. Père éternel, oui, on veut reconnaître la grandeur de ton nom, de ta majesté, de ta grandeur. Un Dieu qui dépasse notre entendement, notre compréhension, mais qui est quand même réel et qui a désiré démontrer combien est-ce que nous étions chers à ses yeux parce qu'il a été prêt à payer par la vie de son Fils qu'il a donné. Jésus-Christ qui s'est abaissé jusqu'à nous pour prendre sur lui notre péché, notre condamnation et subir à notre place le châtiment que l'on méritait. On veut te remercier, Seigneur, de cette grâce, de cette miséricorde, de cet amour envers nous, parce qu'on ne le méritait pas du tout. Père, merci pour ta parole aussi, merci pour ton esprit, et puisses-tu nous accompagner lorsqu'on la regarde ensemble, et que tu puisses en servir par ton esprit pour éclairer nos yeux, notre compréhension, et qu'on puisse partir d'ici encore davantage ébloui, étonné, émerveillé par qui tu es et par ce que tu as fait pour nous. En ton Fils Jésus. Amen. J'aimerais lire juste quelques versets dans Ésaïe 40. Verset 12, c'est pas affiché, c'est un texte que... quand on m'a demandé, on nous demande, nous les prédicateurs, de donner un texte avant le dimanche, afin que l'équipe de louange puisse se préparer. Puis, je vous dis, quand on m'a demandé, j'étais embêté parce que je savais pas quel passage prendre, parce que... Je cherchais un passage qui parlait de Dieu, mais il y a tellement de passages qui en parlent, mais je me suis dit, en tout cas, mais là, il fallait pas que j'attende jusqu'à jeudi soir pour leur dire, parce qu'ils se pratiquent jeudi soir, en tout cas. Mais voici dans Ésaïe 40, verset 12, ça dit, « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? » Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'Esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit? Lui a enseigné son savoir-faire. Il lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. Puis là, bien, on pourrait continuer parce que le restant du chapitre, bien d'autres chapitres, nous démontrent, nous présentent qui Dieu est. Et si Dieu ne s'était pas révélé dans sa parole, eh bien, on serait un peu dépourvu, parce que on serait laissé à nous-mêmes pour se faire une idée de Dieu. Et probablement qu'on aurait une idée pas mal boiteuse, pas mal tout croche. Alors, Dieu nous a fait grâce. Dans un sens, sa parole, c'est un peu comme son CV, sa carte d'affaires. Elle est un peu... on va dire consistante. Il y a beaucoup dedans, mais... Alors, on continue ce que j'ai commencé au début de l'année sur essayer de saisir, comprendre ce que Dieu révèle de lui-même et pourquoi est-ce qu'il s'est révélé ainsi. Et aujourd'hui, bien, on regarde Dieu au commencement. Mais avant cela, on va faire une petite révision. Vous l'avez sur votre feuille au début, là, que dans le message précédent, nous avons appris que la parole de Dieu est la seule source crédible de vérité absolue et que Dieu a préservé sa parole pour que nous puissions le connaître. Alors, on peut, par l'entremise de cette parole, si on pourrait dire avoir un point de repère, avoir de l'information pertinente pour chacun de nous et pouvoir mieux saisir et comprendre qui Dieu est, ce qu'il a fait, qui nous sommes et ce qu'il veut faire en nous. Et le but de Dieu dans l'ensemble des Écritures, c'est de nous faire du bien, de nous bénir. On a dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. J'ai juste en train d'exprimer ici qu'il n'est pas venu juste pour nous donner le strict minimum, là, juste assez pour qu'on puisse, on va dire, vivre. Mais il veut nous bénir, nous donner une vie abondante. Dans le message précédent, on a vu des vérités qui... On va résumer, là. C'est que la Bible est un livre crédible qui fait autorité parce qu'elle est une collection fiable de documents historiques. Ensuite, elle rapporte les accomplissements surnaturels de la prophétie. Puis, elle déclare être divine, c'est-à-dire de Dieu. Quel impact est-ce que ces vérités qu'on a vues la dernière fois, qu'on a tirées de la parole de Dieu, quel impact est-ce que ces vérités ont sur ma vie, sur votre vie? Comment est-ce qu'on perçoit la Bible, la parole de Dieu? Est-ce qu'on la met tout simplement parmi tant d'autres livres sur une étagère dans la bibliothèque, ou est-ce qu'on réalise véritablement que c'est un livre unique, distinct, à part de tous les autres? L'apôtre Paul, quand il écrit sa lettre aux Romains, il mentionne comment les gens de son époque percevaient Dieu. Et on peut lire dans Romains 1, 23, en parlant des êtres humains, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et au verset 25, il poursuit, « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Paul décrit ce que les gens pensaient à son époque. Est-ce que ça a changé quand on considère ce qui se passe de nos jours? Pas du tout. Ça peut-être même empirer. Mais quel qu'il en soit, on peut se faire toutes sortes d'idées concernant Dieu. Mais la question fondamentale dans tout cela, c'est de savoir si les idées qu'on se fait correspondent véritablement à ce que Dieu a dit de lui-même dans sa parole. Dans Jérémie 9, 22, 23, nous lisons, « Voici ce que dit l'Éternel. » Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, Que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Alors, le texte que je viens de lire, ça commence, « Voici ce que dit l'Éternel. » Pourquoi est-ce que Dieu a vu à ce que ça commence ainsi, par ses paroles, « Voici ce que dit l'Éternel. » Mais probablement parce qu'il voulait qu'on réalise, qu'on sache que c'est lui qui parle. C'est lui qui s'adresse à nous et c'est lui qui a l'autorité dont la parole a du poids, a de la pertinence, a de l'importance. Et quand, dans ces quelques versets, qu'est-ce qui est la meilleure chose que l'on à laquelle on puisse aspirer, nous, en tant qu'êtres humains? Bien, selon ce qu'il exprime, notre objectif, notre but devrait être de connaître Dieu, connaître sa bonté, sa droiture, sa justice, et on pourrait en rajouter, parce que bien d'autres versets rajoutent aux caractéristiques, aux qualités, aux vertus de Dieu. Alors, le but le plus élevé à atteindre, c'est de connaître Dieu pour ce qu'il est véritablement, selon ce qu'il a révélé de lui-même. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on va regarder d'un peu plus près et commencer à connaître un peu mieux l'auteur de la Bible. En commençant par le début, le livre de Genèse, puis on va voir d'autres versets aussi. Et cela va nous aider à répondre à certaines questions comme « Qui est Dieu? Comment est-il? Quelles sont les choses fondamentales et essentielles à savoir à son sujet, telles que révélées et que nous lisons dans sa parole? » C'est certain que ce matin, dans un message, on ne peut pas tout couvrir. Et je ne vais pas essayer parce que je suis limité. Limité en capacité mentale, mais aussi en temps. Mais la chose est, c'est que c'est comme un... Pour certains, c'est un début, pour d'autres, ça va être une continuité. Afin que on puisse mieux comprendre, saisir, réaliser qui est Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole. Et qu'on puisse, dans un sens, faire un tri dans notre esprit, à savoir, hey, l'idée que je me fais de Dieu, eh bien, s'il y a des choses de Dieu que je me fais dans mon esprit qui sont complètement à côté, la traque dans le champ, mais je les mets de côté, que je les garde de pas pour dire, mais ça, c'est Dieu. Non, si ça ne correspond pas au Dieu tel qu'il s'est révélé dans sa parole, mais c'est un Dieu, dans un sens, qui fait défaut. Et on veut adorer le seul et vrai Dieu tel qu'il s'est révélé dans sa parole. Alors, ce matin, on va regarder, là, je vous donne toute la liste, là, mais Dieu se révèle dans sa parole comme étant éternel, comme tout-puissant et auto-existant, comme l'Esprit suprême qui est présent partout à la fois, comme étant un et pourtant une trinité. Et on va développer chacun de ces points en progressant ce matin. Alors, le premier, c'est Dieu se révèle dans sa parole comme étant éternel. Dans Genèse 1, 1 et 2, ça dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Qui existait au commencement, au tout commencement? Ça commence avec Dieu. Dieu seul existait, puis il a tout créé. Puis en lisant ce premier chapitre de Genèse, on voit de la part de Dieu aucun effort d'essayer d'expliquer son existence. Il se déclare tout simplement être là. Dans Psaume 90, 2, ça dit, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Qu'est-ce qu'on apprend? Ou qu'est-ce que c'est qu'on tire de ce verset? Eh bien, il existait avant toute chose. Il a créé le monde entier. Il est, comme le verset le dit, d'éternité en éternité. Ce qui veut dire, une autre manière d'exprimer, il est éternel. Et ce terme éternel signifie qu'il n'y a jamais eu de moment dans l'éternité passée où Dieu n'a pas existé et qu'il n'y aura jamais de moment dans l'avenir où il n'existera pas. Dieu a toujours existé. Il existe maintenant et il existera toujours. Alors, Dieu se révèle comme étant le Dieu éternel. Dieu n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Dieu n'est pas né, n'a ni été créé et il ne mourra jamais. Dieu n'a jamais eu de père ni de mère, il existe tout simplement. Le Dieu de la Bible est infini, intemporel, éternel et immuable. Et quand on essaie de en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais quand que moi j'essaie de saisir, de comprendre ça, mon petit cerveau chauffe. Puis, si je ne fais pas attention, il y a des fioles qui vont brûler. Parce que ça me dépasse. Mais, la chose est, c'est comme ça que Dieu se révèle. C'est ce qu'il dit de lui-même. Alors, il faut que j'ajuste ma pensée, dire, je ne comprends pas. Mais juste parce que je ne comprends pas, ça ne veut pas dire que c'est ça ne se fait pas. Hein? Je disais à propos d'un petit garçon qui demande à son père à propos du Saint-Esprit, il dit, mais je ne le vois pas. J'ai de la misère à saisir. Et là, son père, il dit, est-ce que tout à coup, tu sais ce que c'est l'électricité? Il dit, oui. Mais il dit, tu la vois-tu? Non. Mais elle est là. Elle se manifeste par le fait que si on ferme les interrupteurs en arrière, la lumière va se fermer. Ça ne veut pas dire que l'électricité n'est plus là. Hein? Alors, juste parce qu'on ne le voit pas, qu'on ne comprend pas à 100%, ça ne veut pas dire que c'est impossible et que ça ne se peut pas. Dans Colossiens 1,16, on lit « En effet, c'est en lui, et là, quand on regarde le contexte en Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Qu'est-ce que Dieu a créé? Le mot-clé, c'est tout. Tout. Il a créé tout ce qui existe, tant dans le ciel que sur la terre, et comme il précise, ce qui est visible et invisible. Les humains, les esprits, les anges, sont-ils éternels? Non. Parce que Dieu les a créés, ils ont eu un commencement. Les Écritures sont claires. Du début à la fin, Dieu est éternel. Tout le reste a été créé par lui. Et c'est à nous, dans un sens, soit de dire, OK, ben non, moi, je ne crois pas ça. C'est un choix qu'il nous laisse. Mais on a aussi le choix de pouvoir dire, bien, même si je ne comprends pas, j'accepte ça comme étant un fait, une réalité, une vérité, parce que Dieu l'a dit. Et c'est pas ce que je pense qui doit, on pourrait dire, arriver en premier, qui est que, on dirait qu'il détermine ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous avez à l'endos de votre feuillet, là, un tableau qu'on va remplir au fur et à mesure, mais la première ligne, c'est que, on voit qu'il y a une comparaison entre Dieu, l'humanité, puis les anges. On voit que Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Mais pour l'humanité, a eu un commencement. Les anges ont eu un commencement. Alors, il y a une démarcation nette entre Dieu, qui est éternel, et l'humanité et les anges, qui n'ont pas toujours existé, mais qui ont eu un commencement. Dieu se révèle dans sa parole comme étant éternel, sans commencement ni fin. Dieu a toujours existé. Le deuxième, c'est que Dieu se révèle dans sa parole comme tout-puissant et auto-existant. On revient à notre verset qu'on a vu tantôt au début de Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avec quoi a-t-il créé les cieux et la terre? Eh bien, quand on regarde dans son ensemble, il a créé à partir de rien. Rien, parce que rien d'autre existait. Puis, dans sa capacité d'être le tout-puissant, eh bien, il appelle à l'existence certaines choses qu'il a déterminées comme étant essentielles, nécessaires. On peut se poser la question, mais comment Dieu a-t-il pu survivre avant la création? S'il n'y avait que lui-même? Bien, c'est que Dieu existe de lui-même. Ce qui signifie qu'il a besoin d'absolument rien pour subsister. Il n'y a pas besoin de nourriture, il n'y a pas besoin d'air, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a besoin d'absolument rien. Puis, Dieu n'est jamais seul. La solitude suggère qu'il manque quelque chose et qu'un besoin se fait ressentir. Mais Dieu ne manque de rien. Il n'a besoin de rien. Il est toujours parfaitement satisfait et complet en lui-même. Dieu ne compte même pas sur nous pour son existence. Dans Actes 17, 25, ça dit, Il, en parlant de Dieu, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Le Dieu de la Bible se révèle être tout-puissant et auto-existant. Encore là, ça dépasse notre compréhension, notre imagination. Mais la chose est, c'est que, est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? Bien, encore là, soit qu'on accepte comme véridique ce que Dieu révèle, ou qu'on le mette de côté. Nous, êtres humains, l'humanité, eh bien, on est tellement dépendant, même si parfois on veut se faire croire qu'on est indépendant. Quand on compare ce que nous sommes par rapport à ce Dieu tout-puissant qui existe de lui-même, nous, individuellement, personnellement, nous sommes totalement impuissants, dépendants, incapables de survivre par nous-mêmes, sans les ressources telles que l'air, la nourriture et ainsi de suite que Dieu a créées et a pourvues. On peut se poser la question, mais pouvons-nous nous épanouir sans d'autres personnes? Il est vrai qu'on peut exister sans d'autres gens. On peut décider d'être un ermite à quelque part, là, s'éloigner du monde, puis peut-être dire on va avoir la paix. Puis oui, on peut exister pour un certain temps, mais on ne pourra jamais s'épanouir en tant que personne telle que Dieu a voulu sans les autres. Et c'est pour ça qu'il y a eu la brillante idée de l'Église. Même si l'Église, malheureusement, n'est pas parfaite. Okay? Mais ça, c'est un autre sujet. OK? Même ceux qui rejettent et qui comptent chaque jour sur les choses que Dieu, c'est-à-dire eux, ils comptent chaque jour sur les choses que Dieu a créées pour exister et prospérer. Même s'ils nient Dieu, ils comptent sur ces choses-là pour leur survie, pour leur épanouissement. Pour ce qui est des anges, même s'ils sont plus puissants que nous, aucune place dans les Écritures, nous les voyons comme étant tout puissants au même niveau que Dieu. Et ils n'existent pas depuis l'éternité comme Dieu, parce qu'ils ont été créés par lui et ils existent pour Dieu. Si on revient à Colossiens 1,16, il dit en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Et la dernière phrase, tout a été créé par lui et pour lui. Alors les anges, les esprits, ont tous été créés et ils ne peuvent pas exister par eux-mêmes et ils ont été créés pour Dieu. Et ils sont complètement dépendants de leur survie sur Dieu. Alors, seul Dieu existe de lui-même, par lui-même, par sa propre puissance. Lui seul est totalement comblé en lui-même, n'ayant jamais besoin de quoi que ce soit pour survivre et être satisfait. Alors, si vous tournez encore au dos le prochain point sur le tableau, c'est que Dieu est tout-puissant et existe par lui-même, n'a besoin de rien. Mais nous, l'humanité, on est limités, nous avons besoin de Dieu. Et les anges sont limités et ils ont besoin de Dieu. Alors, il y a une démarcation nette entre Dieu et sa création. Alors, quand on regarde ça, puis on essaie de saisir, de voir l'ampleur de ça, mais qui est le plus grand, le Dieu de l'abîme, les anges ou l'humanité? Mais c'est le Dieu de l'abîme qui nous dépasse tous. Alors, Dieu se révèle dans sa parole comme étant tout-puissant et auto-existant. Est-ce que vous avez l'impression que je me répète? Vous êtes trop poli pour me dire oui? C'est correct. C'est correct. Je me répète parce que c'est au cas où que pendant le temps que je partage ces choses-ci, c'est que vous aviez un blanc de mémoire ou que vous manquiez le bout. Puis là, si je le répète, mais à un moment donné, il y a une chance que vous alliez l'entendre. OK? OK, troisième. Dieu se révèle dans sa parole comme l'Esprit suprême qui est présent partout à la fois. On revient à Genèse 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dans ce passage, Dieu se décrit comme l'Esprit qui planait au-dessus de l'eau. Cela nous démontre une fois de plus que Dieu est distinct de sa création. Il est en dehors de sa création, séparé d'elle, parce qu'il est autosuffisant. Il existait bien avant la création du monde. Il est parfaitement glorieux simplement parce qu'il est, il existe. Il est l'Esprit suprême. Dieu est présent partout, à tout moment. Un autre aspect de Dieu qui est encore là, qui force mon petit cerveau, là, puis qui me rend perplexe. Certains pensent que Dieu ne peut être qu'à un endroit à la fois. Et où est-il? Savez-vous? Quand on pense à Dieu, là, on dit, il est au ciel. Il est juste là. Puis, il y a l'autre extrême. Il voit Dieu partout, dans tout. Il est dans l'arbre, dans le rocher, dans l'eau de la rivière ou dans le lac. Puis Dieu est partout, puis dans tout. Bien. La chose est, c'est que quand on regarde ce que la parole nous dit, Dieu est distinct de sa création. Il n'est pas dans ces choses-là. Il les a créées, oui. Mais Dieu est complètement, on va dire, à part, distinct de sa création. Dieu a toujours été présent partout. Mais il n'est pas en toute chose. Dans Jérémie 23, 23, 24, ça dit, « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel, ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie, déclare l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel? » « Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? On peut essayer. Mais il est partout. Il est partout. Il remplit l'univers. Toujours présent partout. L'humanité. L'humanité est limitée. Nous sommes limités. Dieu nous a créés avec de la chair, des os, un corps. Et l'humanité est limitée par le temps, l'espace, la gravité. On est limité par notre besoin de lumière et d'abri, puis on pourrait rallonger la liste. Limité en force physique et en intelligence. Limité par la maladie, par la mort et par notre capacité à guérir. Limité à un seul endroit à la fois. Et c'est la même chose pour les anges, pour les esprits. En lisant la parole, on voit que eux aussi sont limités. Ils peuvent être à un endroit à la fois, comme nous. Puis, ils ne ressemblent pas du tout à Dieu, parce que Dieu est partout, à la fois, en même temps. Quand on regarde ou on s'arrête sur le Dieu suprême, l'Esprit suprême, on voit que Dieu n'a jamais été limité par le temps ou l'espace. Il est présent partout à la fois. Dieu n'a jamais été restreint par des capacités physiques. Dieu n'a jamais été limité par l'obscurité ou la distance. Dieu est totalement présent dans l'espace le plus éloigné. C'est où les limites de l'univers? Est-ce qu'il est possible de mesurer? Mais aussi loin qu'on peut s'imaginer, il est là. Puis en même temps, il est ici. Il est partout. Il sait ce qui se passe, on pourrait dire, dans les fins fonds de la jungle, à quelque part, là. Quand on est chez nous, quand on est seul, quand personne ne nous voit. Alors, on rajoute à notre tableau que Dieu est l'Esprit suprême ayant une gloire inhérente, c'est-à-dire qui vient de lui-même. Nous, l'humanité, bien, on est limité par un corps. Les anges sont des esprits, mais pas comme Dieu, créés avec gloire. Ils ont été créés avec gloire. Deuxièmement, est partout présent à la fois, en parlant de Dieu, et nous, l'humanité, on est limité à un endroit à la fois, et les anges sont aussi limités à un endroit à la fois. Alors, il y a une distinction nette entre le Dieu créateur et sa création. Dieu étant ce qu'il est, avec le peu qu'on a comme information à date, pour réaliser qu'on ne peut pas tromper Dieu. Il en passe une petite vite, comme on dit. Étant ce qu'il est, eh bien, il n'est pas limité comme nous. Et bien souvent, soit dans des films, des dessins animés ou même des jeux vidéo, il va y avoir des représentations supposément de Dieu, mais ils ont une lacune commune, c'est qu'ils ne reflètent pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu limité. C'est un Dieu qu'on peut manipuler. C'est un Dieu qu'on peut déjouer si on a assez d'intelligence ou de savoir-faire. Mais le Dieu de la Bible, non, on ne peut pas le déjouer, on ne peut pas le manipuler. Dieu n'est pas une force quelconque qu'on peut conjurer, tromper et utiliser. D'aucune manière. Quatrièmement, Dieu se révèle dans sa parole comme étant un et pourtant une trinité. Le mot trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais la vérité qui exprime cette pensée-là de triunité, trois en un, bien, on la trouve à travers les Écritures, en commençant même par ici, dans le premier verset. La Bible utilise le mot hébreu Elohim pour désigner Dieu. On revient à Genèse 1 et 2. Au commencement, Dieu, Elohim, créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, Elohim, planait au-dessus de l'eau. Combien de dieux sont mentionnés dans ce premier verset, dans ces deux premiers versets? Bien, il y en a un, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y avait plus qu'un, bien quand on lit au commencement Dieu, à la fin de Dieu, il y aurait un X pour démontrer un pluriel. Mais ce n'est pas le cas. Mais la chose est, c'est que il y a un fait intéressant, c'est que le terme Elohim permet de désigner plusieurs personnes au sein d'un même être suprême. Car en hébreu, Elohim, bien, Eloah, Dieu, est au singulier. Et quand on veut le mettre au pluriel, on ajoute un im. Alors, si on était conséquent avec, on va dire, la grammaire, là, alors quand on lit « au commencement, Dieu », le mot en hébreu, c'est « les dieux ». Mais parce qu'on parle d'un Dieu trinitaire, il est au singulier. Hey, ça devient compliqué, ça, là. Hein? On dirait que Dieu fait exprès pour nous faire péter des fioses. Hein? Mais, tu veux, c'est comme ça qu'il se révèle. Alors, voilà le nom de Dieu qui se présente comme Elohim. Un mot qui est au pluriel, mais qui veut réellement dire au singulier, parce qu'il est un. Dans Hébreux, chapitre 1, les trois premiers versets, ça dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. » Alors Dieu le Fils est un avec le Père et l'Esprit parce que c'est par le Fils que l'univers a été créé. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Le Fils est l'expression de la personne de Dieu. Puis le Fils soutient tout par sa parole puissante. Le Fils ne peut pas avoir ses caractéristiques que seulement s'il est lui-même pleinement, complètement Dieu. Alors Dieu est une trinité, trois personnes en un être. Dans Deutéronome 6:4, ça dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et cela pourrait être traduit par, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Alors, le texte insiste sur le fait que Dieu est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, une triunité. Ils sont co-éternels, co-égaux, incapables d'être séparés. Il y a bien des manières à travers les siècles, les gens ont essayé de saisir ou d'exprimer, démontrer cette vérité. Une d'entre elles, c'est la corde à trois brins. Cette corde est une, mais elle est composée de trois brins individuels. Aucun des brins n'est plus gros que les autres et aucun n'est plus important. Chaque brin est nécessaire et chaque brin est une partie distincte de la corde. Et on peut se servir de cela pour, dans un sens, c'est comme ça Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Même si l'illustration ne fait pas justice nécessairement à Dieu, eh bien, Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils, ni plus grand que Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un en puissance, un en compréhension, un en caractère, un en existence, et ainsi de suite. L'un n'a pas créé les deux autres. Ils sont un, sans commencement ni fin. Alors, chaque caractéristique qu'on a vue sur le tableau, mais ça s'applique à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Encore là, même si on ne peut pas complètement saisir, comprendre, eh bien, c'est là que vient l'élément de la foi, de dire, eh bien, si c'est comme ça que Dieu se présente, c'est comme ça que je dois l'accepter, le reconnaître et le croire. On va passer. Ça, c'était juste des choses que j'ai mentionnées, là. On les a vues. Mais on revient au tableau pour ajouter le dernier point. C'est que Dieu est une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes en un être. Nous, l'humanité, on est une seule personne, un être. Et les anges sont une seule personne ou être. Alors, on revient sur ce qu'on a vu. Dieu se révèle dans sa parole comme étant éternel, comme étant tout-puissant et auto-existant, comme l'Esprit suprême qui est présent partout à la fois, comme étant un et pourtant une trinité. On peut avoir différentes croyances par rapport à Dieu. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que on doit aligner notre croyance, si on est son enfant, selon sa parole. Et pas faire comme Paul mentionne des gens de son époque qui s'étaient fabriqués des dieux selon leur image, selon leur compréhension. Évitons de nous-mêmes, même si on est chrétien, de vouloir faire à notre image un dieu qui nous convient, qu'on peut mettre dans notre petite boîte ou peut-être dans notre portefeuille, là, puis notre sacoche, puis, tu sais, puis on le sort juste quand on en a besoin. Que Dieu nous aide dans notre cheminement, dans notre relation avec Dieu. Parce que comme on a vu, Dieu veut qu'on le connaisse. Mais pas qu'on le connaisse comme on voudrait se le fabriquer, mais selon ce qui s'est révélé de lui-même. Que les vérités concernant qui il est puissent avoir un impact et faire une différence dans notre vie, dans notre quotidien, personnellement et collectivement. Prions. Père éternel, merci. Merci que tu t'es révélé, tu cherches à te faire connaître. Et viens à notre secours pour nous aider à te connaître tel que tu te révèles, et non pas comme on voudrait que tu sois. Merci de ta grâce, de ta patience à notre égard, dans notre cheminement, pour mieux te connaître. Que nous puissions nous tourner vers ta parole, dépendre de ton esprit, pour ouvrir nos yeux, nos cœurs, notre entendement, notre intelligence, afin que nos cœurs puissent reconnaître qui tu es, te louer, t'adorer et te servir pour la gloire de ton nom. Amen.